Je voudrais vous parler. Le sujet, c'est la parole. Alors, comment notre frère Gérard nous a donné un message, je ne sais pas si vous en souvenez, au mois de mai, sur la parole, mais il y a tellement de choses à dire que, voilà, ce matin, ce sera le sujet, la parole, que j'ai appelée la parole éternelle. Et pour commencer, je voudrais vous faire un petit peu travailler. Quel est le psaume le plus long et le plus court? 117. 117. Alors, je ne sais pas si vous savez que le psaume 119, il est divisé en 22 parties de 8 versets. Et chaque partie et chaque verset de chaque partie commence par une lettre hébraïque. Donc, c'est intéressant. Hein, bon, en français, on ne le retrouve pas. Donc, chaque strophe commence par la même lettre. Et donc, il y a 22 strophes de 8 versets. Et dans chaque strophe, c'est le texte, alors le psaume 119, c'est le texte qui renferme le plus de versets sur la parole. Et dans chaque verset, on trouve des synonymes de la parole, sauf deux versets dans le psaume. Alors pour vous faire un petit peu travailler ce matin, j'avais envie, on va lire les 8 premiers versets, donc la première strophe, on va l'afficher, voilà, on va le lire. Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin, que mes actions soient bien réglées afin que je respecte tes prescriptions. Alors je ne rougirai pas de honte devant tous tes commandements. Je te louerai avec un cœur droit en étudiant tes justes sentences, je veux respecter les prescriptions, ne m'abandonne pas seulement. Alors je vous écoute, donnez-moi les... Il y en a donc, il y a 8 versets et il y en a 7, 7 synonymes de la parole. Premier verset, criez fort, dites pas. La loi de l'Éternel. Verset 2, instruction. Verset 3, il n'y en a pas. C'est le premier verset du psaume qui n'a pas de référence à la parole. Dans le verset 4, décret. Les décrets. Au verset 5, prescription. Au verset 6, commandement. Au verset 7, sentence. Et au verset 8, de nouveau prescription. Je vous dis juste une petite anecdote. Quand j'étais petite, parce que j'étais petite un jour. On était 6 à la maison, hein, donc c'était pas toujours facile, les enfants, 6 enfants. Et mon papa, qui était chrétien, mais très attaché à la parole, on va dire aujourd'hui, on dirait légaliste, il y avait beaucoup de choses qui nous étaient interdites à la maison. Et un jour, je ne vous conseille pas de le faire, il nous a donné comme punition de copier le psaume 119. Bon, c'est pas à faire, hein, parce que ça risque plutôt de dégoûter qu'autre chose. Hein. Mais voilà, juste c'était une petite anecdote comme ça. C'est pas pour ça que je le connais par cœur. Hein. Mais voilà, c'était juste une petite introduction. Quand vous lirez le psaume 119, ben cherchez tous les synonymes de la parole. Et puis, vous n'êtes pas obligé de lire les 176 versets, mais en lire une partie peut-être chaque jour, 8 versets par jour, ça vous fait 22 semaines, 22 jours.
T'as dû l'écrire souvent?
Non, une fois seulement. Il n'a pas recommencé. Voilà, donc on va entrer dans le sujet. Alors, certainement que je vais dire des choses que vous connaissez, mais comme l'apôtre Pierre le dit, je ne cesserai de vous rappeler ces choses. Je l'ai écrit au crayon, je ne sais plus ce que j'ai dit. Je ne cesserai de vous rappeler ces choses afin que vous soyez affermis dans la vérité. Donc voilà, je vais peut-être dire des choses que vous ne connaissez pas. Je vais dire des choses que vous connaissez, j'espère en dire que vous ne connaissez pas. Parce que comme j'aime bien fouiller la parole. Donc le premier, j'ai trois sujets. Le premier sujet, c'est qui est la parole? Alors bien sûr, vous savez qui est la parole. Jésus. Dès le commencement et même avant le commencement, on l'a chanté tout à l'heure, bien avant, bien avant, bien avant. Jésus, la parole, est à l'œuvre. Dans Genèse 1, Dieu dit, je ne vais pas faire une étude sur la Genèse, notre frère en a fait une l'autre jour aussi, mais Dieu dit, c'est la parole, et l'esprit qui plane au-dessus des eaux. Je veux juste souligner que le nom qui est utilisé, c'est le nom Elohim, qui est un nom pluriel, qui renferme la Trinité. Et quand je m'occupais des enfants à la BE, il y a quelques années, c'est pas toujours facile d'expliquer la Trinité aux enfants. De dire, en une seule personne, il y en a trois. Donc je leur disais, le Père pense, le Fils parle, ce que le Père a pensé, et le Saint-Esprit agit, ce que le Fils a dit. Le Père pense, le Fils parle et le Saint-Esprit agit. Alors, ce texte de Jean, vous le connaissez par cœur, j'espère. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et au verset 14, et la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jésus a dit de lui-même, hein, vous trouverez dans les évangiles, et surtout dans l'évangile de Jean, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Il ne dit pas « j'étais », il dit « je suis ». Le « je suis » parle d'une éternité. Et je dirais, c'est un présent constant éternel. Ça exprime un présent constant éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Il était là dès le début et même avant le début. On l'a chanté déjà tout à l'heure. De la Genèse à l'Apocalypse, Jésus est. Et il a été agissant tout le temps. Il ne s'est pas tourné les pouces pendant le Premier Testament. Ça dit, c'est pas mon tour, j'attends. Non, il a été agissant tout le temps. Il a agi sous une autre forme, sous d'autres formes, on va dire. Mais Jésus, donc, est la parole, et tout au long du Premier Testament, il s'est manifesté aussi. Et j'aime beaucoup ça, parce que j'ai fait beaucoup de recherches dans le passé. Donc le Premier Testament est aussi important que le Nouveau Testament. Quelqu'un me disait cette semaine, après une veille à la maison de prière, « Ah mais oui, mais l'Ancien Testament, oui, mais c'est pas pour nous, oui, mais c'est compliqué, oui, mais... » Le Premier Testament est important. Ce sont les seules écritures que les premiers chrétiens avaient comme référence. Ils n'en avaient pas d'autres. Et Jésus, comme les disciples, les apôtres, ont souvent cité des versets du Premier Testament. Et comme les chrétiens de Béret, vous connaissez les chrétiens de Béret, ils y cherchaient et trouvaient la confirmation de ce qu'on leur annonçait. Et même Jésus, quand il marchait avec les disciples d'Emmaüs, il leur dit, et commençant par Moïse, et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors peut-être que vous êtes de ceux qui pensent que le Premier Testament n'est pas important, et qu'il n'est fait que pour les Juifs, parce qu'il y a beaucoup d'histoires concernant le peuple juif, c'est vrai, ou qu'il est difficile à lire et que ce n'est pas toujours encourageant. C'est vrai, parce que bon, je suis en train de lire le livre d'Ésaïe, puis je suis tombée sur des chapitre où on parle de malédiction sur tel peuple, malédiction sur... C'est vrai que ce n'est pas toujours facile à lire. Mais dans 1 Corinthiens 10, 11, Paul dit « Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. » Et dans Romains 15, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, Tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, c'est pour notre instruction, c'est pour que nous soyons éduqués, pour que nous puissions en tirer des bonnes choses. Alors je disais que Jésus s'est manifesté tout au long du Premier Testament, bien sûr avant la création, après la création, etc. Et il s'est manifesté sous différentes formes. Souvent, on l'appelle l'ange de l'Éternel. Et c'est souvent pour apporter un message. Ben oui, parce qu'il est la parole. Il est la parole depuis le début. Donc quand il se manifestait, c'était pour apporter des messages. Il s'est quelquefois manifesté sous l'apparence d'un homme, sous l'apparence d'un ange, dans des visions, ou encore, comme avec Moïse, dans le buisson ardent. Oui, c'était Jésus. Ce n'est pas une hérésie. Je vous donnerai le verset après. Quand Moïse demande le nom qu'il doit donner au peuple, qu'est-ce que lui dit Dieu ? Tu lui diras, celui qui t'envoie, tu diras, je suis m'a envoyé vers vous. Je suis. Qui est-ce qui est ? Je suis, c'est Jésus. Je vous donne quelques exemples. Daniel voit quelqu'un qui a l'apparence d'un fils de l'homme, vêtu de lin, avec une ceinture d'or. Vous vous rappelez, je vous ai fait un message sur la ceinture. Ézéchiel aussi a la vision d'un homme vêtu de lin, avec des vêtements de sacrificateur. Et puis quand trois personnages, sous une apparence humaine, sont venus visiter Abraham pour annoncer la naissance d'un fils, mais aussi pour parler de Sodome et Gomorre, parce que Dieu avait dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham ne s'est pas trompé. Il en a appelé un Seigneur. Et c'est celui qui est resté avec lui après pour l'intercession pour Sodome et Gomorre. Les deux autres sont allés accomplir ce que Dieu avait prévu pour Sodome et Gomorre. Et ce n'est pas le Père, c'est le Fils, c'est la parole. Christ, il est dit que Christ a accompagné le peuple dans le désert de manière spirituelle. 1 Corinthiens 10, je ne suis pas sûre d'avoir mis là, si ? Non. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Il y a une tradition rabbinique qui dit que le peuple buvait un rocher qui les suivait, tout le temps. C'est intéressant hein, de savoir ça, parce que même s'ils ne croient pas au Messie, etc., ils ont vu qu'il y avait quelque chose. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ, c'est 1 Corinthiens 10. Un autre exemple, et je pourrais en dire d'autres, mais je ne vais pas m'allonger, parce qu'il y en a des dizaines que vous pourrez découvrir. Je ne fais qu'effleurer le sujet. Il y avait une femme dans son champ qui était en train de travailler, et puis il y a l'apparition d'un ange qui lui annonce qu'elle va avoir un enfant et que pendant qu'elle sera enceinte, il ne faut pas qu'elle boive d'alcool, il faut qu'elle fasse attention à sa nourriture, etc. Et quand l'enfant sera né, il sera consacré, il ne faudra pas lui couper les cheveux. Bon, alors elle est complètement étonnée, elle s'en va trouver son mari, elle dit « Ah, il y a un homme qui m'est apparu et voilà ce qu'il m'a dit. » Alors Manoah, parce que c'est son mari, vous savez, les hommes n'étaient pas très contents à cette époque-là. « Comment ça, il est venu te trouver toi et pourquoi pas moi, quoi ?» Et bien, s'il revient, tu m'appelles, quoi. Et donc, finalement, il est revenu. Alors, elle est allée appeler son mari. Et Manoah est arrivé. Et puis, elle a commencé à lui poser des questions. Et qu'est-ce qu'elle doit faire, ta, 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 ta. Et puis, il lui dit, mais j'ai tout dit à ta femme, déjà. Hein. Alors, bon, Manoah dit, ok, alors, est-ce que tu veux prendre le repas avec nous? Et puis, l'ange répond, non, je ne partagerai pas de repas avec vous. Mais si tu veux, offre un sacrifice d'action de grâce. Et Manoah demande, « Mais dis-moi, quel est ton nom qu'on puisse t'honorer ? Pourquoi est-ce que tu demandes mon nom ? Il est merveilleux, il est mystérieux. » Ce n'est pas un ange normal qui aurait un nom mystérieux. Et donc, Et donc c'était bien l'ange de l'Éternel qui était apparu. D'ailleurs, en hébreu, on dit, dans la Bible, c'est écrit l'ange de l'Éternel, mais en hébreu, souvent, ils disent ange Jéhovah. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'article entre deux, ça fait plus, on devrait dire, l'ange éternel, pour donner une signification plus importante. Alors, voilà, bien sûr, alors c'était qui, cet enfant qui est né? Samson. C'est bien, vous avez suivi. Donc il y a plein de passages comme ça, d'événements dans la parole, dans le Premier Testament, qui parlent d'apparition de Jésus. Et je vous invite donc, pour terminer ce passage, à chercher Jésus dans le Premier Testament. Chercher Jésus dans le Premier Testament, c'est passionnant, c'est instructif. Il a toujours été à l'œuvre. Le deuxième sujet, c'est Jésus, le Logos, le Verbe, donc celui qui parle. Jésus s'est fait homme, il est souvent appelé fils de l'homme, d'ailleurs lui-même s'appelait fils de l'homme, quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre, etc. Il est la parole et en tant que fils de l'homme, porteur de la parole du Père. Donc il y a une différence entre, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, il est vraiment la parole, et quand il est incarné en tant que Jésus, il apporte la parole du Père. Il dit à ses disciples, les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. En tant que fils de l'homme, il est soumis entièrement à son Père, mais il reste la parole. D'ailleurs, dans Apocalypse 19, il est parlé d'un cavalier avec un manteau couvert de sang, dont le nom est Parole de Dieu. Et d'ailleurs, les disciples, après coup, et certainement c'était après coup, ils ont réalisé avec qui ils ont cheminé durant ces 3 ans. Ils n'ont pas compris tout de suite. C'est seulement après qu'ils ont compris. Et c'est toujours Jean qui nous dit dans 1 Jean 1:1 ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont palpé, touché, il s'agit de la parole de vie. Ils l'ont palpé, ils l'ont touché. Ils étaient près de Jésus, ils pouvaient le toucher. Et je ne sais pas si à ce moment-là, quand ils le touchaient, ils étaient conscients, mais après coup, en tout cas, ils ont compris que c'était vraiment la parole de vie. Donc Jésus est venu apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu et confirmer les paroles, la parole du commencement. Et il lui donne son importance, lui aussi. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Donc on a besoin de la comprendre autrement, il n'est pas venu l'effacer, mais on a besoin de la comprendre et de la lire autrement. C'est dans Matthieu 5, 17 et 18, on continue. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. On parle souvent de la parole, mais aussi des paroles. D'ailleurs, il y a quelque temps, j'étais très encouragée. Ça m'a fait plaisir d'entendre les catholiques qui parlaient de la parole. Ça ne se faisait pas avant, c'était pas, ils n'utilisaient pas ce terme. Donc on parle de la parole, des paroles, mais vous y trompez pas, celui qui donne les paroles, c'est celui qui inspire les paroles, c'est Jésus qui est la parole. Bon, vous connaissez ce verset qui dit « La parole est une nourriture pour nos âmes, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. » Si nous disons que nous aimons Jésus, nous devons aimer sa parole. Pour nous en nourrir, pour le connaître toujours mieux. Et si nous manquons de sagesse, plongeons-nous dans la lecture de sa parole. Jacques dit, si nous manquons de sagesse, Dieu nous la donne. Lisez Proverbe 8. Je ne sais pas si vous vous rappelez, s'il y en a beaucoup qui étaient là quand on a fait une lecture à 3 voix du Proverbe 8. Il y avait Nicolas. Et on a fait cette lecture à trois voix, c'est très intéressant, lisez-le aussi, parce que le Proverbe 8, c'est vraiment la personnification de la sagesse qui est Jésus. Ce proverbe nous parle de Jésus, qui est la sagesse personnifiée. Et le chapitre d'ailleurs se termine par « Heureux l'homme qui m'écoute, et celui qui me trouve a trouvé la vie. » Celui qui me trouve a trouvé la vie. Pour terminer ce petit chapitre, je vous lis le psaume 19, qui lui aussi a beaucoup de références à la parole. « Les directives du Seigneur sont droites, elles réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il fait briller les yeux. La crainte du Seigneur est pure, elle subsiste à jamais. Les règles du Seigneur sont vérité, elles sont toutes justes. Elles sont plus précieuses que l'or et que beaucoup d'or fin. » Plus douce que le miel et que le miel qui coule des rayons. C'est Ézéchiel à qui Dieu avait demandé de manger le rouleau de la parole, qui disait qu'elle était comme du miel quand il l'a mangée. Et Jérémie disait aussi, je les ai dévorés. Est-ce que vous dévorez la parole ? La troisième partie de mon message, ça va, je suis pas très longue, hein. C'est la parole est créatrice et elle est puissante. J'espère que vous le croyez. Et je vous donne quelques petits éléments, mais il y en aurait plein. Hein. Dans Jérémie 5,14, il est dit qu'elle est comme un feu. Jérémie 23,29, elle est comme un marteau. T'as pas compris, allez, hop. Ézéchiel, Dieu lui dit, prophétise. Et les eaux reprennent vie, elles crient, elles redonnent vie. Romains 1,16, une puissance pour le salut. Hébreux 4,12, comme une épée, elle sonde les cœurs. Romains 4,17, elle appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Elle est une puissance pour renverser les raisonnements. Et dans Hébreux 1, il est dit qu'il soutient toute chose par sa parole. Et ça m'étonne tout le temps quand je pense qu'il suffirait d'une parole pour que le monde s'écroule. Mais non, il soutient tout par sa parole. Il soutient le monde par sa parole. C'est extraordinaire, cette parole qui est puissante et créatrice. Et donc, elle est puissante et elle parle toujours aujourd'hui. Alors, elle est prophétique. Il y a beaucoup de prophéties dans le Premier Testament, surtout. Évidemment, mais elle l'est aussi quand elle nous parle à nous. Quand elle nous parle personnellement, quand on reçoit une parole qui parle, voilà, qui nous percute, là, on l'appelle la parole Réma, elle nous transforme, si on se laisse transformer. On s'attend plus souvent à recevoir une parole prophétique plutôt qu'à sonder la parole qui va nous parler et répondre à nos questions. C'est facile hein, de recevoir un Seigneur, donne-moi une parole, encourage-moi. Regarde dans ta parole, je vais t'encourager, je vais te parler. C'est plus facile aussi d'écouter des messages sur Internet, par exemple, plutôt que sonder nous-mêmes les Écritures. Alors je ne dis pas que c'est interdit, hein. Mais attention, il ne faut pas que ce soit que ça. Il ne faut pas que ce soit que des messages qu'on écoute d'un tel ou d'un tel. Pourquoi ? Parce que Jacques nous invite à scruter, étudier, plonger nos regards dans la loi parfaite, à la pratiquer pour être heureux. Je voudrais juste donner quelques courts témoignages, je ne vais pas les rallonger, personnels, ce n'est pas souvent que je donne des paroles, qui ont été... que j'ai reçu dans la parole, et ça a été confirmé par prophétie. Et j'aime bien ça. C'est la parole qui me parle. Et si j'ai des doutes, la prophétie confirme. Ça a été comme ça quand le Seigneur m'a appelé à le servir, bien avant que je rencontre mon mari, là. Où j'avais un bon travail, et j'ai laissé mon travail, ma bonne situation, pour servir Dieu à plein temps. Et j'avais reçu un passage donc qui m'avait parlé, parce qu'il fallait que je sache quoi faire. J'avais arrêté mon boulot et tout. Je me disais, où est-ce que je dois aller pour le servir? Et il y a un passage de la Bible qui m'avait vraiment interpellée. Et je me suis dit, ah Seigneur, tu veux me parler par ça, mais bon, il faut que je médite, que je vois ce que tu veux me dire par là. Et finalement, j'étais en vacances dans le sud, et le dimanche, je suis allée au culte dans une grande église où personne ne me connaissait. Et il y a une prophétie qui donnait exactement la parole que j'avais reçue et qui donnait l'explication. Et c'est comme ça que j'ai su où je devais aller, où le Seigneur m'appelait. Ça a été pareil pour le mariage, figurez-vous. J'ai reçu une parole, c'est la parole qui m'a parlé et qui m'a confirmé que je devais bien me marier avec ce monsieur. Et puis j'ai aussi reçu des promesses pour mes enfants, et quand j'ai lu ces promesses, c'était, ben ouais, on les reçoit, ça nous touche vraiment profondément. Et quelques temps après, on a eu un prophète qui est passé, il m'a donné exactement la même parole. Et puis encore quelques temps après, je ne sais pas, un an ou deux après, un autre prophète m'a redonné les mêmes paroles. Donc voilà, ne cherchez pas seulement les prophéties, cherchez la parole qui parle. Elle parle aujourd'hui, la parole. Elle est vivante et elle peut nous parler aujourd'hui. Et quand je relis Jacques, je vous le relis, Jacques nous invite donc à scruter, étudier, plonger nos regards dans la loi parfaite, à la pratiquer pour être heureux. J'oserais dire, pratiquer Jésus. Pratiquer la parole, pratiquer Jésus. Laissez la parole Jésus infuser dans votre cœur, dans votre esprit. C'est un peu ça l'intimité finalement. De chercher, vous savez, dans la parole, il est dit que celui qui a trouvé, il cherche un trésor, il le cherche jusqu'à ce qu'il trouve, quoi. Donc on a besoin de chercher, de scruter, pour trouver ce trésor qu'est Jésus et qui veut parler à nos cœurs aujourd'hui, à chacun d'entre nous. Que la parole de Christ habite dans nos cœurs. Nous devons l'aimer, la chérir. Nous devons l'aimer et la chérir. Et c'est vraiment le message que je vais vous laisser ce matin. Et pour terminer cette petite méditation, je veux juste reprendre et vous laisser avec ça. Cherchez Jésus dans le Premier Testament. Ne les laissez pas de côté. La Bible, toute la Bible est importante. Aimez la parole Jésus et pratiquez la parole. Jésus. Pratiquez Jésus. Le thème de cette année, c'était « Suis-moi », je crois. Ça va dans le sens, quoi, dans ce thème. Pratiquez Jésus. C'est-à-dire faire tout ce qu'il nous demande, suivre ses instructions, ses commandements, ses lois, ses prescriptions. Et c'est vraiment ce que Jésus veut pour nous aussi. Parce qu'il est Il est cette parole éternelle qui était bien avant le commencement et qui continuera encore jusque dans l'éternité. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que tu es la parole, parce que tu es cette parole qui nous a été révélée, parce que tu es venu te révéler à chacun de nous. Seigneur, merci parce que ta parole est vivante et puissante aujourd'hui pour changer, transformer nos vies, pour changer le monde, pour changer toutes les circonstances. Ta parole est puissante et agissante encore aujourd'hui. Seigneur, pardon si nous ne prenons pas suffisamment de temps dans ta parole. Que chacun de nous puissions nous plonger dans cette parole. Que nous puissions nous réjouir de lire ta parole parce que c'est toi. Parce que c'est toi, Seigneur. Aide-nous à la comprendre, aide-nous à retirer du Premier Testament ce que tu veux nous faire comprendre. Seigneur, je te prie pour que chacun de nous puisse grandir dans la connaissance de ta parole. Béni sois-tu, Seigneur. Merci parce que toi, tu nous accompagnes. Merci Seigneur parce que tu es encore agissant aujourd'hui. Tu le feras encore. Seigneur, merci. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.